Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque semaine sur Radio Shalom pour Mélève et Malka et nous sommes en ligne à présent avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel.
Bonsoir.
Shavua Tov pour ceux qui nous écoutent samedi soir et comme on dit chaque semaine, Shabbat Shalom pour ceux qui nous retrouvent le vendredi sur Facebook ou sur les radios en région. On continue la lecture de notre paracha et donc là maintenant on arrive à Vaïgash. Alors Vaïgash en fait c'est la suite de la paracha précédente, c'est toujours la rencontre entre les frères qui se sont tellement déchirés, on a même, on le sait, abandonné Yosef, enfin bref, en revenant pas sur le passé, toujours est-il que ces deux parachiotes, je parle sous votre contrôle hein, Rav Lemel, ces deux parachiotes qui se suivent sont liées et surtout elles sont très étonnantes parce que d'abord Yosef parle à ses frères. Il n'y a que lui qui sait que c'est ses frères. Ils pensent qu'ils sont devant un seigneur, ils sont plus ou moins d'accord pour négocier avec lui. Et là, Vaïgash, ça commence. Yuda se met dans une colère noire. C'est plus pareil. Et donc, très humain, très beau texte, il se joue quelque chose. Comment se fait-il qu'on passe de l'un à l'autre? Et vers quoi ça nous amène? Qu'est-ce que ça nous promet comme avenir? Puisque finalement, on parle de réconciliation entre frères, entre juifs. Bref, je ne peux pas faire la dracha à votre place. À peine quelques mots pour essayer de comprendre les enjeux, comme on dit. De quoi parle notre paracha de ce soir?
Exact. On est en effet ici dans un moment très, très particulier. C'est ce moment dans lequel va avoir lieu, en fin de compte, les retrouvailles entre Yosef et ses frères. Mais celles-ci sont précédées donc de moments de très, très grande tension, de moments de très grande angoisse aussi par rapport aux frères, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. J'ai envie de dire à quelle sauce on va les manger. Ils se rendent bien compte qu'ils ont face à lui un personnage très mystérieux, avec cette fameuse coupe, dont ils ont l'impression que c'est une coupe magique, parce que en tapotant sur cette coupe, dit le Midrash, il les avait installés chacun à leur place. Donc ils se disent, il connaît des choses, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent même pas imaginer que ça peut être leur frère, parce que si c'était leur frère, alors évidemment qu'ils se seraient fait connaître de beaucoup plus tôt, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui est très bizarre, et puis voilà, il y a brusquement Yosef qui dit « Bon, mais maintenant, Binyamin, je le garde. Hein, je le garde. Vous pouvez repartir, mais Binyamin, c'est le voleur. Je le regarde. » Et à ce moment-là, il y a une forme de combat colossal qui se met en place entre Yehuda et Yosef, et 19 mètres, c'est deux royaumes qui s'opposent, qui se confrontent l'un à l'autre, parce que tous les deux vont avoir cette dimension de malchoute, de royauté. Et au passage, leur royauté, disent nos maîtres, c'est quoi? C'est la capacité qu'ils ont eue d'être dans la maîtrise profonde d'eux-mêmes. Yehuda, on se rappelle dans l'histoire de Tamar, quand il a fait un effort surhumain pour dire « mais au fond, je reconnais mon erreur ». Il a reconnu devant tout le monde qu'il avait fait une erreur, et une erreur qui n'était pas banale. Et puis aussi Yosef, vous savez que lorsque Yosef va devenir vice-roi d'Égypte, eh bien les courtisans du pharaon disent « mais enfin, tu prends cet esclave hébreu ». Il dit « Ginnouné malchout raïtibo, j'ai vu les signes de la royauté ». Je ne vais pas vous faire l'analyse du texte, mais il y a un midrash incroyablement beau qui dit que tout ce que le pharaon donne à Yosef, que ce soit cette couronne, que ce soit ce char, correspond au fond à symboliquement toute la maîtrise que Yosef a eue de lui-même dans la confrontation, dans la fameuse histoire de la femme de Potiphar. Donc on a ici deux choses très fortes qui se passent. Et puis, brusquement, c'est le happy end. Yosef fait sortir tout le monde, reste avec ses frères, leur dit « Annie Yosef, je suis Yosef ». Et là, on connaît toute la suite. Mais alors, au fond, toute cette histoire, elle tourne, si on réfléchit, autour de l'enjeu de la fratrie. C'est-à-dire qu'il y a une rupture dans la fratrie, et puis brusquement, ça y est, la fratrie se remet en place. Et Yosef l'avait parfaitement compris, parce que vous savez que lorsque Joseph avait fait cette interprétation du rêve du pharaon, le texte de la Torah nous dit qu'il y a un détail très curieux. Le pharaon lui dit, tu sais, Vatirena Baharu, ces fameuses vaches, n'est-ce pas, elles étaient en train de paisser, de paître dans Baharu, dans les marais, à la limite, mais qu'est-ce qu'on s'en moque? Et Yosef, qui vient d'être extrait de sa prison et qui est confronté à quelque chose d'énorme, entend parfaitement Baharu, dit le Midrash, en vérité, Baharu, Baharva. Ça fait allusion à la dimension de la fraternité. Donc Yosef se rend bien compte que tout l'enjeu maintenant, ça va être de reconstruire cette fraternité. Et c'est pour ça d'ailleurs que il va tout faire pour que cette fratrie se remette en place de manière solide et non pas de manière dans une forme de paraître, vous savez, peace and love, nous sommes tous des frères, mais au plus profond de nous-mêmes, on se déteste les uns les autres et on aimerait bien être le calife à la place du calife. Non, Youssef, il veut reconstruire cette fraternité. Et c'est au fond un des enjeux majeurs de notre histoire. Pourquoi ? C'est un enseignement très très beau que j'ai entendu de Rav Auschwitz qui dit la chose suivante. Vous savez, lorsque, dans la semaine dernière justement, Yaakov se retrouve dans la situation dans laquelle ses fils lui disent « on doit repartir avec Binyamin, on ne peut pas ne pas repartir avec Binyamin parce que si on ne l'amène pas, Benjamin, eh bien, le vice-roi d'Égypte ne voudra pas nous donner à manger. » Et Yaakov est désespéré parce qu'il dit « mais Shimon n'est plus là, il est enfermé, Yosef n'est plus présent, il a disparu, et vous voulez me prendre Binyamin ?» Et puis là, il dit une phrase très énigmatique, il dit « Alai sur moi, hayukulana, tout était, tout m'est déjà tombé dessus. » Et en vérité, le Gaon Mivilna fait remarquer, il dit que le terme de « Alai, hayukulana, sur moi, toutes ces choses sont tombées » fait référence, au fond, à une autre histoire. C'est quand Rebecca parle à son fils Yaakov, qui est encore un jeune homme, et c'est le moment de la fameuse histoire des bénédictions de son père, et Yaakov est très bouleversé, il ne sait pas quoi faire. Sa mère lui dit qu'il doit aller chercher ses bénédictions, et sa mère le rassure et lui dit « Alai » qu'il l'a traboni. N'aie pas peur, s'il doit se passer quelque chose de négatif, c'est sur moi que ça se passera, et rien ne se passera de mauvais. Mais elle utilise le même terme « Alai » sur moi. Et le Gaon fait remarquer que « Alai » au fond fait allusion à trois éléments de la vie de Jacob. Alai, Aïn, première lettre, Esav, Esaü. Lamed, Lavan. Lavan, son beau-père qui va chercher à l'assimiler, n'est-ce pas, comme on va le voir dans un instant. Et le Yud, c'est le Yud de Yosef. Rebecca a déjà dit dans sa dimension prophétique à Yaakov, tu sais, Alai, tu devras te confronter à ces trois dimensions de Esav, de Lavan et de Yosef. Et quand justement, on veut lui prendre Benjamin, il dit, mais je ne comprends pas, Alai. Ce qu'on m'avait dit, c'est déjà passé, alors on va me rajouter quelque chose. Et en vérité, l'histoire sera une forme de happy end extraordinaire, puisque justement, il ne se passera rien avec Binyamin. Au contraire, ça sera le retour de Yosef. Mais on a ici une idée qui est au fond extrêmement importante. Le Zohar explique et dit que Yaakov, l'histoire de Jacob, c'est la même histoire que le peuple d'Israël. Et quelque part, ce fameux Alai, eh bien c'est le Esav auquel on a été confronté dans l'histoire. Le premier Esav, c'est celui qui a voulu nous détruire dès le début avec Yaakov, puis par la suite, eh bien, on le connaît, c'est Haman qui veut détruire physiquement le peuple d'Israël et beaucoup plus proche de nous, eh bien, malheureusement, c'est Hitler, et puis c'était auparavant Torquemada, et c'était auparavant Khmelnytsky, les Cosaques et tout le reste. Ça, on connaît, et pour ça, eh bien, nous avons deux armes. Il y a à la fois l'arme de la prière, et en même temps, les armes que l'on doit prendre pour se protéger. Le second, c'est Lavan. Lavan, c'est beaucoup plus pervers. Lavan, c'est celui qui dit à Yaakov, « Mais Yaakov, je ne comprends pas, ses enfants, ce sont aussi mes petits-enfants, restons côte à côte, reste dans ma proximité. » Lavan, au fond, ce qu'il veut, c'est assimiler Yaakov. Il veut qu'il reste dans sa proximité constante et puis qu'au bout d'un moment, il perde son identité. Le Lavan de l'histoire, eh bien, c'est l'histoire des Hanoukas qu'on a vu récemment, les Mityavnim, ceux qui veulent devenir des juifs à la mode grecque, c'est-à-dire avant tout grecs, et puis leur dimension juive comme étant une forme d'élément supplémentaire, mais qui n'est pas essentiel, de ceux qui veulent voir dans la Torah qu'un élément parmi tant d'autres, et qui veulent mettre la parole de Moïse au même plan que celle de Socrate, ou de Platon, ou qui sais-je, et que sais-je, pardonnez-moi, et beaucoup plus proche, ça a été les bolcheviks, c'était le communisme, ça a été toutes ces histoires dans lesquelles on a voulu que le peuple d'Israël perde complètement son identité juive. Sur ça, on sait comment se battre aussi, en développant l'enseignement de la Torah et en montrant sa dimension authentique, vraie et révélée. Mais il y a le troisième. Et le troisième dont on parle dans notre paracha, c'est Yosef. Yosef, c'est justement tout l'enjeu de la fratrie, de la fraternité. C'est tout l'enjeu, et on en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière, c'est tout l'enjeu de savoir est-ce qu'au fond, on est prêt à remettre en place une relation fraternelle. Et c'est sur ça où peut-être les choses sont beaucoup plus complexes. Pourquoi ? Parce que lorsque nos ennemis viennent de l'extérieur, lorsque la difficulté vient d'un tiers qui ne fait pas partie de notre histoire, alors nous n'avons pas de problème à nous y opposer parce que tout simplement, on voit bien ce qui se trame, ce qui se joue. Le point de départ de Essav, on le connaît. La vanne, c'est plus subtil parce que parfois, c'est de l'intérieur même de notre peuple qu'on veut faire perdre l'identité juive et n'en faire qu'un ersatz. Mais par contre, l'enjeu de la fraternité, là, c'est à l'intérieur de notre peuple. Et pour ça, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a un texte qui est basé sur l'enseignement du Harizal qui dit qu'à un moment, eh bien, les anges se tournent vers Dieu et disent « Mais comment se fait-il que le peuple d'Israël vive des choses quand même complexes ?» Et le Zohar ne répond, pardonnez-moi, et le Harizal répond et dit, parce qu'il y a un verset dans la Torah qui nous dit « D'ivrei rivot bish'arecha » parce que tout simplement, il y a des paroles de dispute, bish'arecha, à l'intérieur de ton peuple, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a ces désirs de pouvoir, parce qu'il y a au fond cette problématique dans le rapport à la fratrie. Alors, peut-être que c'est à cela que doit nous inviter cette paracha. Et de manière très intéressante, et je veux conclure là-dessus, dans cette paracha, vous savez, quand Yosef retrouve ses frères, il leur dit « Je suis Yosef » et ses frères sont bouleversés parce qu'ils réalisent qu'au fond, le problème, c'est qu'ils ont tout mal interprété. Ils pensaient que Yosef voulait devenir le roi et leur imposer sa royauté, alors qu'en vérité, ce n'était pas du tout ça. C'était une mauvaise interprétation. Et peut-être que reconstruire une relation de fraternité, ne serait-ce que d'abord dans le premier cercle, qui est le cercle familial, et puis après l'élargir à tous les cercles, c'est décider de ne pas être sans arrêt dans des interprétations négatives de ce que l'on voit, de ne pas décider dans notre tête d'avoir une lecture qui fait qu'on a une vision négative de l'autre, décider que peut-être on peut réavoir à nouveau des visions positives de ce qui se passe les uns chez les autres, mettre en exergue ce qui va avant de parler de ce qui ne va pas, comme le Roche dit à Benoît Cher, que la nature profonde des gens, c'est le galot et tarot, de révéler ce qui ne va pas, ou le halim et tatovot, de mettre de côté ce qui va. Eh bien, peut-être que c'est à cela, entre autres, que nous invitent ces parachiotes que nous venons de lire, que nous sommes en train de lire, de réinstruire à l'intérieur de notre histoire individuelle et puis par la suite collective, cette dimension de harva, de fratrie, et de faire en telle sorte que justement, eh bien, les frères, quand ils se retrouvent, savent s'embrasser profondément, authentiquement, parce qu'ils réalisent qu'au fond, eh bien, ils sont à nouveau véritablement unis.
Eh bien, Rav Eli Lemel, que Dieu fasse que la période que l'on vit actuellement, où l'on commence à vacciner les gens autour, vous voyez, je vais très loin, et où, après une période de bidoud, comme on dit en hébreu, où chacun s'est retrouvé face à lui-même, on puisse de nouveau recommencer une vie collective, une vie normale et tous ensemble. Que Dieu fasse que ce soit un peu le message de notre paracha de cette semaine. Rav Eli Lemel, je vous remercie et Shavua Tov.
Shavua Tov et Shabbat Shalom.
Et on part pour Jérusalem où l'on retrouve le Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom Aleichem v'Adberacha.
Amen. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom ou Shavua Tov. Rav Mordechai, on continue avec notre réflexion sur la paracha Vayigash. Et alors, c'est très clairement une confrontation. D'ailleurs, on vient de l'évoquer un peu à l'instant. On voit les mots. Yehuda, j'ai envie de dire, avec un langage très contemporain, il rigole pas. Mais loin de là, il y a des menaces. C'est une confrontation. Sinon, le problème, c'est que vous avez vu que dans le Zohar, c'est pas ce qu'on dit. Donc, il y a... Et alors, puisqu'il y a deux visions des choses, qu'est-ce qu'on regarde ? Et pour arriver à des conclusions qui sont diamétralement opposées, Rav Mordechai Biton.
Absolument, parce que quand on lit le récit de la paracha, comme vous l'avez dit, il part en guerre contre Yosef, bon, parce qu'effectivement, Binyamin, son frère, va être retenu en quelque sorte en Égypte, donc il faut qu'il le délivre, puisqu'il a promis à Yaakov, son père, de le ramener. Maintenant, cet affrontement, il va déboucher sur le dévoilement de Yosef. Et donc à partir de là, sur un processus de réhabilitation de Yosef, un processus de shalom avec ses frères et un processus d'apaisement de ce conflit terrible qui a amené donc à la vente de Yosef. Donc le Zohar, lui, il va regarder cet événement à un autre étage. Il va dire « Vaigash elav Yehuda » qu'en fait Yehuda va vers Yosef. En vérité, il y a ici une figure qui nous rappelle que la royauté de Yehuda se rapproche de celle de Yosef. De quoi parle-t-on ? Il est prévu dans le plan initial du peuple juif que Yehuda soit le roi et que la tribu de Yehuda soit la tribu de la royauté. De fait, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif. pour les fils de Yaakov, qui sont des gens d'une très haute sainteté, et qui sont des personnages qui ont le roi HaKodesh, qui ont l'Esprit Saint, il est clair que le roi, c'est Yehuda. Or, que va-t-il se passer? Yosef fait des rêves. Alors, c'est très intéressant parce que le rêve, finalement, il apparaît tout au long du livre de Bereshit. Abraham fait le rêve dans l'alliance entre les morceaux, bruit de la Tanétarim, on lui révèle toute l'histoire. Yaakov fait un rêve dans lequel on lui montre les anges qui montent et qui descendent. C'est l'histoire du peuple juif dans les exils. Yosef fait des rêves, Pharaon fait des rêves, et à chaque fois, les rêves semblent nous montrer une réalité qui est la vraie réalité. Comme si, en quelque sorte, notre monde était un monde faux, donc un monde de rêves, mais que le rêve dont on rêve, c'est la réalité, c'est le monde qui gouverne notre monde. Et effectivement, quand les frères entendent Yosef qui dit « Vous allez un jour vous prosterner devant moi », ils disent « Attends, 2 minutes. » Les rêves nous disent une certaine vérité. Donc ce serait toi le roi, mais il n'en est pas question. Il y a ici une confrontation. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons fonder le peuple juif. Le peuple juif, il va recevoir la Torah. Or, la Torah, elle est confiée aux grands de la génération. Dans chaque génération, il y a des prophètes, il y a des grands, comme aujourd'hui, il y a Raphaël Kenevski, par exemple. Quand il parle, c'est dépend de la génération qui a parlé. Dans chaque génération, il y a des grands qui parlent et qui fixent les choses. Eh bien, ici, il a été fixé que la royauté, elle serait donnée à Yehuda. Et toi, tu viens, au nom du ciel, en quelque sorte, une réalité qui serait que tu serais le roi. Il n'en est pas question. Et donc, ils le vendent, ils veulent le détruire et le faire disparaître. Et Yosef va devenir vice-roi d'Égypte. C'est-à-dire qu'il va devenir, en fait, le vrai roi, en quelque sorte, d'un monde qui est un monde dépravé. Et lorsque ses frères reviennent, et que donc ils vont aller au contact avec lui, le Zohar nous dit, en fait, la royauté de Yehuda, c'est-à-dire ce peuple juif qui, tout au long de l'histoire, est dans l'exil, mais il a une tribu qui incarne la royauté, qui, à la fin, va se révéler au travers du Messie, du Mashiach, cette royauté-là, elle a besoin de la royauté de Yosef. Il s'approche de lui pour lui dire, en quelque sorte, dit le Zohar, on fait le shalom. Là, maintenant, tu es une figure d'Israël dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il y a deux royautés. Il y a effectivement la royauté absolue, la royauté d'Hachem, la royauté du Mashiach, le Beth Amikdash, celle pour laquelle on prie tous les jours. Mais il y a une autre royauté d'Israël. C'est celle pour laquelle il dit que Yosef était le fils de Yaakov, et que Yaakov et Yosef sont ceux qui vont allumer Esav. Alors comment ils vont l'allumer? Ils ne vont pas faire de djihad islamique, ils ne vont pas dire « Wallah, Wallah, Wallah », ils ne vont rien faire de tout ça. Ils vont étudier la Torah, ils vont être chanoins, ils vont incarner une lumière. Il y a un lien profond entre Yosef et Hanouka. Yosef, Hanouka, les lumières, elles sont saintes, il faut les regarder. Ce sont des références. On ne peut pas les utiliser. Yosef, il est la figure du juif dans la vie, qui va affirmer au cœur de l'Égypte qu'il y a quelque chose qui s'appelle la Torah, la sainteté. On dirait aujourd'hui les identités sexuelles, par exemple, dans la folie où on dégenre, et maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle la famille, voyez, la sainteté, etc. C'est une lumière. Dans l'exil, dans la nuit du da'at, dans l'exil du discernement, dans l'exil de l'intelligence, dans la folie de la perte du sens, c'est quelqu'un qui est là et qui dit « il y a un sens aux choses, il y a une organisation, je sais le juif, avec sa Torah, qui traverse le monde ». Et à la fin, finalement, quand Yehuda s'approche de Yosef, il lui dit « en fait, on a besoin de toi. Pour que moi, je puisse être le roi, pour qu'Hachem puisse être le roi, il faut passer par Yosef. Il faut passer par le juif en exil qui incarne l'absolue vérité de la Torah dans la nuit de l'exil, dans la nuit du sens. » Donc en fait, ce qui nous est dit au travers de cette paracha, c'est pour ça qu'elle est très émouvante cette paracha, c'est que les différentes figures, en vérité, ont besoin de Dieu. Vous voyez, c'est très extraordinaire parce qu'on est aujourd'hui dans une époque dans laquelle une multitude de visages d'Israël se révèlent. Vous avez la chassidoute, vous avez le judaïsme lituanien, vous avez le judaïsme séfarade. Vous avez le judaïsme séfarade de Rabbi Ovadia Yosef qui était plus dans la halakha, vous avez celui du Ben Ishraï, de Rabbi Mordechai qui était plus dans la Kabbalah. Vous avez Breslev qui est sorti. Et tout ça, ce sont des figures d'Israël. Et en fait, ces figures d'Israël, elles ont besoin les unes des autres. Elles ont besoin d'être les unes avec les autres. Elles ont besoin de comprendre qu'en fait, on révèle chacun une vérité qui est une facette de la vérité. Depuis que la prophétie a disparu, la vérité s'est éclatée comme un diamant en plusieurs éclats. Et en fait, tout ça, ce sont des éclats. Alors, ça vient expliquer aussi, par exemple, pourquoi les rabbanim, les grands dirigeants du peuple juif peuvent avoir parfois ce qu'on appelle des chilouké des hôtes, des différences de point de vue sur des moments majeurs. Par exemple, aujourd'hui, sur le coronavirus, là, vous voyez que les grands dirigeants du peuple juif, ils n'ont pas forcément toujours le même avis. Là, maintenant, Raskinski a tranché, mais il n'empêche pas que chacun puisse avoir un avis, une pensée. Et en général, quand vous voyez que les grands du peuple juif s'expriment sur ça, ils le font, chargés de traités de Gemara, de Halakha, etc. Ils ont parlé avec des médecins, donc ils ont exploré à la fois les lois de nature et en même temps ce que la Torah dit sur les lois de nature. Donc ce sont différentes facettes de point de vue sur un problème. Alors évidemment, il faut trancher à un moment. Alors les frères, ils ont mal tranché. Ils ont mal tranché, ils ont provoqué l'exil. Mais quand ils vont se rapprocher de Yosef et qu'ils vont trancher correctement, en disant oui, c'est vrai, il y a plusieurs facettes d'Israël, et on est obligé de vivre les uns avec les autres, on doit s'accepter, se comprendre, et on doit se légitimer les uns les autres, alors le Mashiach, il peut venir. C'est ce que dit le Zohar, donc, sur cette retrouvaille, en fait, entre Yehuda et Séphra. Je crois que c'est une paracha. Cette paracha de Vaïgash est une des parachas les plus grandioses, parce que c'est une paracha qui nous indique finalement la fin de l'exil. Et pour compléter, on termine avec ça. Quand Yaakov va réunir ses fils dans Parashat Vayechi, ça sera la semaine prochaine, on verra qu'il leur dit, il veut leur révéler la fin. Alors, il ne peut pas leur révéler la fin. À ce moment-là, les sources de la prophétie sont cachées. Mais le Baal Shem Tov dit si, il leur a quand même révélé comment la fin peut venir. Et Asfou, Zagid Alachem Atasov, réunissez-vous, acceptez les différentes figures d'Israël, la légitimité des différentes figures d'Israël, et là, la fin va se révéler. C'est extraordinaire. C'est une fin grandiose pour le livre de Bereshit, avant qu'on s'engage maintenant dans l'aventure du peuple juif qui va sortir d'Égypte et qui après va voyager dans l'histoire. Alors, je pense qu'on peut dire sur cette paracha qui est un enseignement, je pense, très actuel.
Ah oui, bien sûr. Et on va y réfléchir énormément grâce à vous. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Shalom Aleichem. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous dire bonne soirée à tous. Shavua Tov et à la semaine prochaine. Et Maria Chadret est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Maria Chadret.
Bonsoir.
Shabbat Shalom pour ceux qui nous regardent sur Facebook le vendredi ou en région. Shabbat et Shavua Tov pour les Parisiens. On continue notre réflexion sur la paracha et donc, c'est Vaïgash, on l'a dit. Et cette paracha qui est celle de la rencontre, celle de la réconciliation entre les frères, vous voulez nous dire ce soir que cette réconciliation n'est possible que si on comprend aussi ce que veut dire maintenir une distance. Vaïgash, c'est rencontrer l'autre, mais en sachant quelle est la place de chacun, j'imagine, en plus, surtout après une histoire aussi tragique que celle que nous raconte la Torah. Mais voilà, ce sur quoi vous avez envie de réfléchir ce soir, c'est ça. C'est quelle est la bonne distance, même avec une réconciliation, dans les rapports entre les hommes.
De ça qu'il s'agit. Et ce qui nous pousse un petit peu à réfléchir à la bonne distance, c'est justement ce radical, la vaïgash, la guéchette, guimel shin. Le Rav Moshe Shapira s'étend à propos de ce radical et dit qu'il s'agit bien sûr d'un mouvement de proximité vers l'autre qui est fondamental, mais on retrouve ce radical dans le mot guécher, par exemple, qui veut dire un pont. Le guécher, eh bien, le pont, c'est le lien qui est établi entre un endroit et un autre, donc ce lien entre les deux endroits, mais il n'y a pas fusion. Il n'y a pas fusion des deux liens. Il n'y a pas fusion des deux lieux, pardon. Et donc le terme ici, vaïgash, c'est créer une relation tout en n'étant pas dans la fusion et l'un avec l'autre. Et donc Rav Moshe Shapira, en citant le Maharal dans le Netzach Israël, explique que c'est ici toute l'ambition finalement de cette réconciliation entre deux frères après, comme vous l'avez dit, un événement dramatique, tragique, eh bien c'est l'art de la bonne distance, c'est l'art de la capacité à être en lien avec l'autre, parce qu'il faut être en lien avec l'autre, et rappelons-le, le Mashiach ne peut venir que s'il y a réconciliation au sein du peuple d'Israël, et je le dis en pensant à ces encore quatrième élections qui s'annoncent pour nous, malheureusement pas très bon, il n'y a pas suffisamment d'unité, bien entendu, mais restons au niveau de nos familles. Entre Yehuda et Yosef, il y a réconciliation, on va dire il y a proximité entre l'un et l'autre, mais cette proximité n'est possible que si l'un et l'autre savent quel est leur rôle, quelle est leur fonction. Alors, ce qu'explique le Netzar Israël, le Maharal dans le Netzar Israël, c'est que Yehuda correspond au cerveau de la famille et Yosef correspond au cœur de la famille. Vous savez, sans arrêt, à propos de Yosef, on parle de ses émotions, il pleure, il se lave le visage, il se retient de pleurer, etc. Donc, finalement, dit le Maharal, on pourrait dire que la totalité du peuple d'Israël, c'est un corps, un seul et unique corps, uni, et que dans le corps, il y a deux maîtres, il y a deux rois à bord qui doivent travailler en conjuguant leurs efforts. Il y a le cerveau et le cœur. Et le travail du cœur est un travail invisible à l'intérieur de nous et c'est un travail de retenue. Et d'ailleurs, c'est le principe de Yosef, fils de Rachel, c'est le principe de la shtika, du silence et de la retenue qu'on va retrouver chez ses descendants, tel le roi Shaoul, tel la reine Esther, etc. Et inversement, il y a le principe de l'expression verbale, hodaya, qui vient du mot Yehuda. Donc le cerveau est là pour extérioriser, il y a les désirs du cœur à l'intérieur, et le cerveau va rationaliser et va extérioriser et verbaliser. Et ça, c'est le travail donc de Yehuda, le travail de l'expression verbale. Et d'ailleurs, la paracha s'ouvre avec un extraordinaire discours de Yehuda qui va d'ailleurs faire fondre complètement Yosef. On a donc ici un travail de la retenue et un travail de l'expression. Et finalement, l'équilibre psychique d'un individu, c'est quand le cœur et le cerveau travaillent ensemble, conjuguent leurs efforts à l'unisson, le cœur désire des choses et le cerveau va les exprimer ou va empêcher l'expression quand il ne faut pas que cela s'exprime. Et finalement, ce qu'on voit ici, c'est qu'un équilibre psychique provient de la conjugaison entre la capacité de retenue et garde à l'intérieur de soi, on va étouffer. Et ça, c'est peut-être, je fais un raccourci, mais c'est ce que Freud nous a appris, en tout cas, tout le XXe siècle a été marqué par cette nécessité de trouver les mots pour dire des choses. Et par ailleurs, il y a aussi les choses qui ne doivent surtout pas être dites. Et quand il y a trop de choses qui ne doivent pas être dites, qui sont dites, eh bien, il y a des disputes dans la famille à n'en plus finir. Elle a dit, il a rapporté, j'ai entendu que, etc. Et ça, il y a une nécessité de retenue absolue. Et donc, finalement, le juste équilibre et la juste distance dans le vaïgash entre Yehuda et Yosef, Yosef étant la force de retenue dans le monde, Yehuda étant la force d'expression dans le monde, eh bien, c'est justement de savoir quand est-ce qu'il faut dire et quand est-ce qu'il ne faut pas dire. Quelle est la bonne distance? Comment se positionner vis-à-vis des autres, de ceux qui sont autour de nous, pour être dans l'harmonie? Il y a une Gemara dans Brachot, page 56b, magnifique, qui dit que celui qui rêve d'une rivière ou bien d'une marmite ou bien d'un oiseau peut espérer la paix dans sa vie. Alors, quelle est la signification de cette jolie Gemara? Eh bien, il y a trois niveaux de shalom dans la vie. Le premier niveau de shalom, qui est le niveau de vaïgash, d'un pont les uns avec les autres, et que tout le monde peut faire, hein, quelles que soient les relations qu'on a avec notre entourage, on peut toujours créer un pont. Eh bien, le premier niveau, c'est donc la rivière qui nécessite un pont pour passer d'un côté à l'autre. Chacun a son territoire, il y a une frontière qui est claire, mais nous créons un lien ensemble parce que nous souhaitons être en lien. Il y a donc ce passage. Le deuxième niveau, un petit peu plus raffiné de shalom, c'est quand il y a une marmite. Et la marmite, c'est justement la frontière entre le feu et l'eau. Alors, si on mélange le feu et l'eau, on n'obtient rien du tout, ni du feu ni de l'eau. Mais s'il y a cette marmite qui fait frontière entre les deux, eh bien, le feu va pouvoir conjuguer son effort avec l'eau pour créer une cuisson. Et donc, il faut qu'il y ait la marmite en frontière. Mais il y a ici une conjugaison d'efforts entre le feu, le principe feu et le principe de l'eau. Et puis, en conjuguant leurs efforts, ils obtiennent conjointement un résultat. Mais il y a bien sûr le troisième sublime qu'on souhaite à tout le monde, qui est l'oiseau. L'oiseau ne pourrait pas voler et atteindre des hauteurs s'il n'avait pas ses deux ailes. Et on ne peut pas imaginer qu'une aile dise à l'autre « Écoute, moi j'ai la flemme, travaille toute seule ». Un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Et donc ici, c'est le mouvement successif de l'aile droite et de l'aile gauche qui vont donner son amplitude à l'oiseau et la capacité de décoller et la capacité d'atteindre des hauteurs et d'atteindre des sommets. Et il faut pour cela avoir ce niveau-là, de sentir que nous faisons partie du même corps et qu'ensemble, nous pouvons atteindre des sommets. C'est le niveau maximal de Shalom, comme on peut le comprendre dans cette Gemara, qui fait qu'on atteint ensemble des sommets. Alors, à minima, quand on est aussi éloigné l'un de l'autre que le son en tant que figure biblique, je dis bien Yehuda de Yosef, un cœur et un cerveau, eh bien, il faut à minima faire un vaïgash, c'est-à-dire créer ce pont l'un avec l'autre, et c'est ce qu'ont extrêmement bien réussi à faire Yehuda et Yosef, à créer un pont entre le cœur et le cerveau, entre ce qui doit être dit et ce qui ne doit surtout pas être dit, et c'est ce qui leur permet ensemble de créer, eh bien nous le savons, de Yosef va naître Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach qui va préparer la venue du Mashiach ben David de la lignée de Yehuda. Il va le préparer de quelle façon ? Eh bien, en connectant nos cœurs à notre roi, au roi du monde, à Hachem, et en créant une union et une unité, en créant un vaïgash les uns avec les autres. Et quand on aura tous réussi à faire du vaïgash, à créer des ponts les uns avec les autres, et peut-être même à réussir à décoller tel des oiseaux, eh bien là, on peut être sûr que le Mashiach ben David pourra venir parce que le terrain aura été préparé, parce qu'il y aura de l'unité dans le peuple et parce que là, on pourra arriver eh bien, à la fin des temps à servir Hachem et à être chacun accompli dans, aussi bien dans la relation qu'on a avec les autres qu'on a avec, que celle que nous avons avec notre Créateur.
Amen, amen. Trouver la bonne distance, quelle belle expression. Merci à vous, Maria Chadré, et Shavua Tov. Ou Shabbat Shalom.
Une belle semaine de proximité pour tous.
Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha avec le Rav David Abendanan. Bonsoir Rav David.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir à vous, Shavua Tov pour ceux qui nous écoutent le samedi soir et Shabbat Shalom pour ceux qui nous retrouvent sur Facebook, notamment le vendredi après-midi. Alors, bon, on arrive vers les fêtes de fin d'année selon le calendrier laïque qui est le nôtre ici à Paris. Et donc, c'est l'occasion pour vous de revenir sur ce qu'est un calendrier. Calendrier juif, évidemment, calendrier hébraïque, puisque c'est puisque votre rubrique parle de halakha. Mais comment fonctionne le calendrier hébraïque ? Pourquoi ça ne tombe pas en même temps ? Pourquoi on a le 31 juin ? Bon, voilà, on pourrait comprendre que Rosh Hashanah tombe en septembre parce que c'est comme ça, mais pourquoi on voit bien que les deux calendriers ne correspondent pas ?
Effectivement, Bernard, le calendrier qui est le nôtre, donc le calendrier hébraïque, ne correspond pas, ne coïncide pas avec le calendrier civil qui est utilisé, qui est en vigueur en France. Puisqu'il faut savoir que pour établir un calendrier, il va falloir fixer ce que l'on appelle des jours, des mois et des années. Le jour, dans le calendrier juif, c'est quelque chose qui dépend du coucher du soleil, tout simplement. Donc on le sait d'où, puisque dans la Torah, « Vayi erev, vayi boker », donc il y a d'abord le soir et ensuite le matin. La Torah nous dit aussi « Mais erev ad erev tishbetu shabbat echem » au sujet de Kippour. Donc on voit bien que un jour commence la veille au soir, à l'inverse du calendrier civil, où un jour commence à minuit 00. Il va falloir aussi fixer des mois. Eh bien, c'est là qu'on va un petit peu diverger. Donc, le calendrier civil est un calendrier qui se base sur l'année solaire. L'année solaire, donc, c'est-à-dire une révolution, un tour de la Terre autour du Soleil. Ce tour de la Terre autour du Soleil, qui est défini par le calendrier civil comme une année, dure 365 jours, 24 et des poussières. Ça, c'est le calendrier civil. Pour obtenir un mois dans le calendrier civil, ce qu'on fait, c'est qu'on divise tout simplement ces 365 jours en 12 et on obtient des mois. Certains mois durent 30 jours, d'autres durent 31 jours, et parfois même on a du 28 et du 29. Dans le calendrier hébraïque, eh bien, un mois, ce n'est pas défini comme ça. Un mois dans le calendrier hébraïque, c'est un tour de la Lune autour de la Terre, la révolution lunaire. La Lune met pour tourner autour de la Terre 29 jours et quelques. Or, un mois, ça doit être Chodesh Yamim, donc un mois, ça doit être constitué de jours entiers. C'est pour ça que dans le calendrier hébraïque, on a des jours, des mois de 29 jours et des mois de 30 jours. Ce décalage-là, qui fait qu'une année 12 fois une année, 12, on va dire 12 fois une révolution lunaire, ça fait 354 jours et quelques, et une année solaire, c'est 365 jours, vous voyez bien qu'il y a un décalage de 11 jours chaque année qui se fait, d'où le fait qu'il n'y a pas de coïncidence régulière entre le calendrier civil et le calendrier hébraïque, le nôtre.
Alors moi j'entends toujours autour de moi les gens qui me disent « Bon, c'est mon anniversaire aujourd'hui voilà, en France, mais c'est mon anniversaire en hébreu. Moi je voudrais savoir, on est né un seul jour. Alors pourquoi ça ne tombe pas le même jour ?»
Effectivement, ça ne tombe pas le même jour puisque les calendriers étant fixés de façon différente, on garde quand même un petit intérêt à vouloir se calquer sur les saisons. Mais ça, on l'expliquera un petit peu après. Mais dans l'absolu, étant donné que nos mois n'ont pas la même longueur que les mois civils, ça veut dire que nos mois vont durer 29 jours ou 30 jours et que les mois civils, eux, forcément, vont être plus loin, 30 ou 31 jours, se crée un décalage et que nos années sont plus courtes que les années civiles, se crée un décalage au fur et à mesure et on n'arrive pas à des années qui sont aussi longues que les années civiles. D'où ce décalage et d'où le fait que lorsqu'il y a une date de bar mitzvah ou une date, de décès, eh bien, les gens parfois retiennent la date civile, une date par rapport au mois de décembre, et en fin de compte, ils verront que les années, selon les années, ben, ça ne donnera pas la même date, ce sera une des dates différentes au mois de Kislev, et c'est pour ça qu'il faut vérifier à chaque fois. Ce décalage vient du fait que les années n'ont pas la même longueur.
Alors, ok, pourquoi il n'y a pas de décalage plus important? Je vois bien, par exemple, le ramadan qui peut tomber en plein été, qui tombe en plein année, si ce n'est vraiment pas des systèmes qui concordent, pourquoi il n'y a pas un décalage plus important?
La question est pertinente. Effectivement, étant donné qu'on a 11 jours de décalage par an entre un calendrier lunaire et un calendrier solaire, théoriquement, ce décalage devrait s'additionner et on devrait avoir des décalages complets. Et ça veut dire que Rosh Hashanah ne devrait plus tomber vers la rentrée, mais au bout d'un certain temps, Rosh Hashanah en plein hiver, puis en plein été, et ainsi de suite. En réalité, le calendrier hébraïque n'est pas un calendrier lunaire, c'est un calendrier qu'on appelle lunisolaire. Il se base sur les deux. Sur les deux, ça veut dire que la Torah nous donne une injonction, une obligation, Chamor et Chodesh à Aviv, de veiller à ce que Nissan reste pendant le printemps. Pour que Nissan reste pendant le printemps, vous savez bien que les saisons dépendent de la position de la Terre par rapport au Soleil, on va devoir se conformer également à l'année solaire. Alors comment fait-on pour concilier les deux? Eh bien, on rajoute ce qu'on appelle des années Meubarot, des années embolismiques, des années qui ne vont pas contenir 12 mois, mais 13 mois. Et on se passe, donc mettons un astronome du 4e siècle, mais l'Agmara en parle aussi au nom de Rav Ada. On rajoute en réalité, ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est que durant un cycle de 19 ans, qu'on appelle le Marzor Katan, durant ce cycle de 19 ans, on rajoute 7 fois 1 mois. Donc il y a 7 années qui sont les années 3, 6, 8, 1, 4, 7 et 9, qui sont des années dans lesquelles nous rajoutons 1 mois à chaque fois.
Alors, en fin de compte, est-ce que le calcul est relativement facile ou est-ce qu'il y a des points que, pour ne pas nous compliquer les choses, vous n'avez pas abordés?
Effectivement, il y a des points qu'on n'a pas abordés parce que le calcul est extrêmement complexe. Il y a des règles. Par exemple, l'Oadou Rosh. Rosh Hashanah ne peut pas tomber ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi. Pour des raisons, pour éviter que Kippour ne tombe un vendredi ou que Kippour ne tombe un dimanche ou pour éviter que Hoshana Rabba ne tombe un Shabbat. Il y a aussi des règles concernant le Molad, ce qu'on appelle le Molad Zaken, par exemple. Ça veut dire que lorsque l'apparition de la nouvelle lune a lieu trop tard, eh bien on décale d'un jour la nouvelle année. Il y a des configurations d'années qu'on peut étudier, puisque vous avez compris que les mois peuvent comporter 29 ou 30 jours. En réalité, il y a des mois qui font un peu exception. Par exemple, le mois de Cheshvan et le mois de Cheshvan et le mois de Kislev peuvent comporter parfois 29, parfois 30 jours. Et en fait, toutes ces configurations font qu'il existe 14 configurations d'années dans le calendrier hébraïque. Ces 14 configurations d'années sont plus ou moins arrivent plus ou moins souvent, et chaque année a une configuration particulière avec une lecture de la Torah qui va coïncider particulièrement avec son année. C'est une étude, une science qui est relativement précise. On n'en a pas abordé tous les points, mais on a compris juste que dans l'absolu, le calendrier hébraïque est un calendrier qui est basé et sur le calendrier lunaire et sur le calendrier solaire. C'est un mélange des deux.
Rav David Abendanan, chaque semaine avec vous sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha. Donc on a appris aujourd'hui la différence entre le calendrier hébraïque et le calendrier civil. Donc l'occasion de comprendre un peu comment fonctionnent les mois. Merci à vous. Bonsoir.
Avec plaisir, bonsoir.